Les protestants de Toulouse proposent un accompagnement aux questions de la fin de vie au Temple du Salem.
La pastorale protestante de la santé propose chaque deuxième samedi du mois au Temple du Salem à Toulouse des ateliers d'information sur les lois de bioéthique et la rédaction des directives anticipées. Nous en parlons ce matin avec le docteur Michel Sauer qui assure avec son épouse Claire ses permanences. Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Quel constat avez-vous fait pour arriver à la mise en place d'une telle permanence ?
Une demande de la population, en particulier donc des personnes retraitées ou âgées qui se posent des questions et qui sont toujours dans une situation un peu difficile pour envisager la fin de vie, qui est une circonstance existentielle tout à fait particulière. Mmh. Et donc il y avait une demande, sachant qu'avec mon épouse, nous nous sommes intéressés à la fin de vie en général et aux soins palliatifs depuis de très nombreuses années.
Oui, vous avez beaucoup travaillé ces questions avant avec d'autres professionnels.
Oui, absolument. Et déjà dans les années 80, nous avions été à l'origine des premières réflexions sur les soins palliatifs et on travaillait à l'époque avec Notre-Dame-des-Coteaux.
Et donc forcément, vous suivez avec attention tout le projet de loi sur la fin de vie qui maintenant va être séparé en deux avec une loi sur les soins palliatifs et puis une loi sur ce qu'on appelle l'aide active à mourir.
Absolument. On ne sait pas du tout actuellement ce que va donner cette nouvelle loi qui va s'intéresser à l'aide médicale à mourir, éventuellement au suicide assisté. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que les lois actuelles, et en particulier la loi Claeys-Leonetti de 2016, permet déjà de donner aux équipes médicales des outils tout à fait efficaces pour assurer une fin de vie digne et sans souffrance. Donc, il faudra voir ce qui va sortir de la nouvelle loi sur les soins palliatifs, mais nous estimons qu'il serait déjà pas mal d'appliquer totalement la loi actuelle.
Oui, parce que vous me disiez en préparant cet entretien que sur la Haute-Garonne, il y a seulement 20 lits qui sont dédiés aux soins palliatifs.
Il y a 20 lits dédiés qui sont répartis entre la clinique Varsovie et l'hôpital Purpan. Et donc, il y a à peu près 10 000 décès sur la Haute-Garonne chaque année. Tous ne relèvent pas des soins palliatifs, bien sûr, mais quand même un nombre important. Et il est clair que 20 lits, c'est un petit peu limite.
Avec cependant certains hôpitaux qui commencent à avoir une culture de soins palliatifs.
Alors c'est ce qu'on observe en pratique dans certains hôpitaux et certains établissements privés de la région, en particulier dans des services de gériatrie. Une culture de soins palliatifs se développe petit à petit par la demande de la population et par l'intérêt des équipes médicales. Et donc, on a pu trouver dans la région toulousaine des services de gériatrie qui appliquaient des soins attentifs et de type tout à fait palliatif. Donc, certes, il n'y a que 20 lits dédiés de soins palliatifs sur la région toulousaine, mais cette culture se répand fort heureusement.
Oui, donc c'est encourageant. Alors, ces ateliers qui ont lieu donc tous les deuxièmes samedis du mois, à qui s'adressent-ils particulièrement ?
À toute personne qui s'interroge sur les lois de bioéthique. Donc, en général, l'entretien qui est couvert par le secret médical débute par une présentation détaillée de l'évolution des lois de la fin de vie, donc depuis la loi Kouchner des années 2000, la loi Leonetti de 2006 et la loi Claeys-Leonetti de 2016. Et donc, on présente ces textes, en particulier donc la création des directives anticipées, la création de la personne de confiance, et dans la dernière loi Claeys-Leonetti, la possibilité, après une discussion collégiale avec, bien sûr, la personne de confiance, l'équipe médicale et la famille, la possibilité d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui est un outil qui peut être utile pour un certain nombre de cas.
Et cette sédation évite justement au patient de souffrir et il est dans un état de coma artificiel, c'est ça ?
Absolument.
Qu'on peut dire ?
Voilà. Et en sachant que cette sédation profonde n'est pas forcément ne signifie pas forcément d'aller au décès systématiquement. On peut très bien, face à une souffrance aiguë,
voilà. Ça peut être ponctuel.
Ça peut être ponctuel, ça peut être pendant quelques jours. Et à ce moment-là, le patient peut être retourné à la conscience, par exemple pour rencontrer sa famille. Dans la mesure où les familles sont souvent éclatées, on peut imaginer donc de permettre à la personne d'attendre le retour de sa famille, de terminer sa vie sereinement après avoir revu ses enfants, ses petits-enfants.
Et faire connaître cette disposition aux personnes que vous rencontrez, est-ce que ça les rassure ?
Alors, c'est le retour qu'on a souvent. Oui. Les personnes qu'on retrouve quelques temps après, ou qu'on... L'autre jour, j'ai croisé dans la rue quelqu'un qui était venu participer à ces ateliers. Et nous nous sommes salués, bien sûr, on a discuté. Et la personne a témoigné du fait qu'elle avait été rassurée et apaisée d'avoir pu réfléchir à ces questions et de rédiger ces directives anticipées.
Alors, puisque vous parlez des directives anticipées, j'aimerais bien, Dr Sauer, que vous nous expliquiez ce que vous dites aux personnes... aux personnes que vous recevez.
Si vous voulez, les directives anticipées sont présentées comme étant d'abord la seule manifestation de la volonté de la personne qui n'est pas consciente. Parce que très souvent, les gens ne réalisent pas que cette manifestation de leur volonté ne doit être rédigée que dans la mesure où ils ne sont pas en capacité de s'exprimer. Bien entendu, toute personne consciente peut en permanence dire au médecin qui s'occupe de lui, voilà des soins que j'accepte, voilà les soins que je n'accepte pas. Par contre, lorsqu'il s'agit de prévoir les circonstances de fin de vie, nous essayons d'expliquer aux gens quels sont les principes de réanimation auxquels ils peuvent faire accéder, et nous leur présentons de véritables directives anticipées qui ont été anonymisées et qui sont présentées par un de nos amis médecins. Et donc, on détaille un petit peu la rédaction qui doit être manuscrite selon la loi et donc qui est révocable en permanence. Et donc, on propose aux gens de réfléchir sur ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils ne souhaitent pas, puisque les directives anticipées ne sont pas forcément et nécessairement négatives. Ce sont des directives qui peuvent... Les personnes peuvent dire exactement ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent, préciser qu'elles souhaitent, par exemple, voir leur famille dans leurs derniers jours et faire en sorte que l'équipe médicale s'organise pour répondre à leurs demandes.
Dans les directives anticipées, il y a aussi les choses qu'on accepte et qu'on n'accepte pas, vous dites bien, et notamment pour ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique. Et là, qu'est-ce que, par exemple, on peut écrire dans ces directives anticipées ?
Alors, c'est pour ça que nous apportons une expertise médicale, dans la mesure où la notion d'acharnement thérapeutique est généralement assez floue. Qu'est-ce qui va être de l'acharnement pour telle personne, pour tel médecin ? Qu'est-ce qui ne va pas être de l'acharnement pour tel autre ? Et donc, dans les directives anticipées, en général, on propose aux gens de ne pas indiquer « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique », qui est une notion assez large et un peu floue. Et nous leur proposons donc de déterminer ce qu'ils veulent comme soins précis. Par exemple, est-ce qu'ils sont d'accord pour avoir une alimentation artificielle par sonde gastrique ? Est-ce qu'ils sont d'accord pour avoir des perfusions ? Est-ce qu'ils souhaitent simplement avoir des soins de confort ? Tout ça doit être détaillé dans les directives anticipées, et que c'est d'ailleurs pour ça que très fréquemment nous voyons les gens à deux reprises, puisque après avoir exposé justement ces difficultés éventuelles de rédaction des directives anticipées pour des personnes qui ne sont pas du milieu médical, les gens ont la possibilité d'y réfléchir, de rédiger une première version de leur directive anticipée, et assez souvent on revoit les gens pour un deuxième atelier un mois, deux mois plus tard, et on peut donc finaliser la rédaction des directives anticipées et éventuellement donc aider les personnes à diffuser ces directives anticipées, puisqu'il faut qu'elles soient connues, alors au minimum d'un membre de la famille, bien sûr de la personne de confiance. Il est souhaitable qu'elles soient déposées auprès du médecin traitant. Et puis, donc, en principe, tout Français a maintenant un espace santé sur lequel il est question que les directives anticipées puissent être déposées. Certaines personnes, surtout parmi les personnes âgées, sont mal à l'aise avec l'informatique. Et il arrive assez souvent que j'utilise mon ordinateur personnel pour les aider à créer leur espace santé et à y déposer leurs directives anticipées.
Vous avez parlé aussi, docteur Sauer, du choix de la personne de confiance. Qui doit être cette personne qui va prendre finalement les décisions importantes pour la personne en fin de vie?
Alors, c'est bien entendu, il est souhaitable que ce soit un proche. Il n'est pas toujours simple que ce soit quelqu'un de la famille, parce que au moment de la fin de vie, le côté psychologique et affectif peut être un obstacle à la réalisation donc des directives anticipées, puisque la personne de confiance est censée faire appliquer les directives anticipées ou au moins les faire connaître de façon très précise au corps médical. Si c'est un fils ou une fille de la personne en fin de vie, c'est l'aspect psycho-affectif peut être une difficulté. Donc il n'est pas inutile que la personne de confiance puisse être un proche ami avec lequel la personne a longuement discuté et lui a fait connaître ses véritables intentions et ses véritables souhaits.
Il faut effectivement une personne amie qui soit d'accord avec les idées de la personne, avec ses convictions.
Absolument, c'est certainement préférable. Au moins d'accord ou au minimum respectueuse des dernières volontés de la personne qui rédige ces directives.
Dans ces ateliers que vous proposez au Temple du Salin, Dr Sauer, tous les deuxièmes samedis du mois, quel retour avez-vous des personnes qui sont... Qui viennent une fois, deux fois et qui ont rédigé avec vous, grâce à vous, des directives anticipées? Est-ce que pour elles ont découvert, puisque vous avez parlé aussi dans ces directives anticipées de je choisis d'avoir ou pas une sonde gastrique, je choisis ou pas d'avoir une respiration artificielle? Tout ça, ce sont des termes que les gens ne connaissent pas forcément.
D'où l'importance justement de passer suffisamment de temps avec les gens pour leur expliquer de façon précise quels sont les soins auxquels ils peuvent éventuellement accéder dans cette période de fin de vie. D'une façon générale, le retour est un sentiment d'apaisement. Les gens sont très heureux d'avoir passé ce cap, mais c'est aussi manifesté toute la difficulté de ces questions, puisque pratiquement sur les 60 personnes que nous avons eu l'occasion de rencontrer en un peu plus d'un an, il n'y a jamais eu deux entretiens identiques. Il n'y a jamais eu deux situations identiques et tout est possible entre des personnes qui sont déjà très claires dans leur esprit et à l'inverse des personnes qui sont dans une situation de désarroi et même dans des couples. Il nous est arrivé de voir des couples avec un membre du couple qui a rédigé ses directives anticipées et le conjoint qui n'arrive pas à le faire.
Oui, parce que ce serait anticipé d'une certaine façon. Ça
j'ai vu une personne trois fois. Et cette personne n'a toujours pas rédigé ses directives anticipées parce qu'il y a un obstacle psychologique. Je suis prêt à la revoir une quatrième si c'est nécessaire.
Pourquoi est-ce si important de les rédiger, ces directives anticipées?
Parce qu'il y a un changement, il y a une évolution dans la mentalité de la population générale et du corps médical. Auparavant, c'était le médecin qui décidait tout. Le patient, plus ou moins, disait soit je vous fais confiance, soit... c'est vous qui décidez, docteur. Cette mentalité a quand même évolué un petit peu. La médecine est devenue aussi très, très technique et certains soins peuvent être des soins un peu traumatisants et les personnes maintenant ont la possibilité de faire leur choix.
Donc voilà, c'est tout ce que vous proposez dans ces ateliers d'information sur les lois de bioéthique et la rédaction des directives anticipées. Chaque deuxième samedi du mois au Temple du Salin à Toulouse, vous pouvez... pour prendre un rendez-vous, vous inscrire au 05 61 21 54 22 sur un répondeur ou par courriel à l'adresse michelsauer@orange.fr. Merci beaucoup, docteur Michel Sauer.
Exactement, et avec plaisir, et merci de m'avoir reçu.
Avec joie.